Radio Plus encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio Plus.
Et on est dans la dernière ligne droite aujourd'hui pour vous parler du salon autonomique, en tous les cas pour aujourd'hui, puisqu'on retrouve bien sûr le direct demain dès 10h sur Radio Plus pour vous continuer de vous parler de ce salon autonomique à Lille Grand Palais, donc en direct également demain, pardon. Et tout de suite, on va retrouver Julien qui est avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée.
Oui, tout à fait, Jean-Philippe. Je suis en compagnie de Patrick Fernandez, le cofondateur de l'application HelpLease, qui se présente comme l'application bienveillante entre aidants et aidés. Alors, Patrick Fernandez, bonjour. Quelques mots pour nous présenter HelpLease.
Tout d'abord, bonjour. Alors, HelpLease. HelpLease, c'est une application qui crée une communauté d'entraide, les aidés et les aidants. Les personnes qui ont besoin d'aide vont rentrer les activités qu'elles font dans leur quotidien, dans l'application. Elles vont jouer le jeu de notifier ces activités à la communauté qui sera aussi inscrite. Ça permet d'identifier qu'on est en train de faire l'activité et que la communauté inscrite est informée. Si pendant l'activité, il y a un imprévu, j'ai la possibilité d'envoyer une demande d'aide à ma communauté qui aura l'information de savoir que je suis déjà en activité et que je m'appelle Patrick et que j'ai tel type de demande autour de l'activité que je suis en train de pratiquer. Ce qui fait qu'au moment de la demande d'aide, si vous êtes inscrit sur l'application et disponible, vous avez la possibilité de répondre à ma demande d'aide. Vous allez recevoir une notification « je peux aider » ou « je ne peux pas aider ». Si vous êtes disponible et inscrit, vous allez appuyer sur « je peux aider ». Je recevrai de mon côté une notification qui m'indiquera que vous êtes disponible et prêt à venir m'aider. J'accepterai votre aide et on sera mis en relation par nos téléphones. Donc, vous aurez rentré votre numéro de téléphone, je recevrai votre appel. Vous allez rendre le service d'aide. Une fois que ce sera fait, j'aurai la possibilité de le noter avec un système tout simple d'étoiles qui me permettra de qualifier le type d'aide que j'ai reçu. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles. L'objectif est que moi, en tant que personne ayant besoin d'aide de temps en temps, je puisse repérer autour de moi, 1 km à 5 km, des aidants potentiels qui peuvent venir m'aider de temps en temps pour me permettre de terminer mes activités, de m'aider à reprendre confiance, à rompre l'isolement dans lequel je peux me trouver de temps en temps et aussi m'inciter à retisser du lien social.
Alors on est bien justement dans le domaine de l'aide très ponctuelle et finalement assez basique. Il n'y a pas de qualité requise pour être aidant sur HelpLease.
La qualité requise, c'est de s'autoriser à laisser, j'allais dire, s'exprimer sa bienveillance. Un des objectifs de HelpLease, c'est de rendre un petit peu apparente la bienveillance de chacun. Et c'est aussi la possibilité qui est offerte aux personnes qui ont besoin d'aide d'être aidantes aussi à leur tour quand elles ne sont pas en activité. Elles ont totalement la possibilité d'être dans cette position d'aidant. Donc ça enrichit aussi ma capacité d'autonomie aussi en venant aider les autres.
Alors l'objectif, c'est aussi de construire une communauté de confiance. Vous m'expliquiez que l'aide que l'on peut apporter, on y va progressivement. Il n'est pas forcément question demain de proposer sa voiture pour un covoiturage au premier qui aura besoin d'aide en réalité.
Non, ce type d'aide pourra éventuellement exister ultérieurement une fois qu'on se sera identifié dans le lieu de vie dans lequel on est et pourquoi pas affiner le type d'aide plus matérielle qu'on pourrait copartager à d'autres moments. Mais là, on est dans un après. Le lien social il est déjà tissé. Là, on s'est déjà repéré et identifié avec les moyens que les uns et les autres pourraient mettre à disposition. L'idée première, là, c'est de répondre vraiment à l'imprévu et de permettre aux personnes qui ont envie de faire les activités et de pas solliciter leurs aidants familiaux classiques, mais de solliciter de nouvelles personnes, de pouvoir le faire.
Principalement aussi, du coup, pour rompre l'isolement.
Totalement. L'idée première, c'est vraiment rompre l'isolement que crée souvent la situation du handicap, parce qu'il y a une perte de capacité et souvent un peu une angoisse d'affronter l'inconnu et d'oser faire les choses.
Alors, combien est-ce que vous revendiquez d'utilisateurs à l'heure où l'on se parle ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, d'utilisateurs qui utilisent vraiment Helplease, dans la France entière, il y a à peu près 4 à 5 000 utilisateurs. Il y a, en téléchargement, on est un petit peu au-dessus. Mais voilà, 4 à 5 000 utilisateurs qui en font un usage qui leur appartient. Parce que quand vous téléchargez l'application, c'est un outil et vous en faites l'usage que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas dans une démarche de nous informer comment vous l'utilisez, on n'a pas beaucoup de moyens de le savoir. Donc, pour le moment, on n'a pas encore la possibilité d'avoir cette information.
Vous me disiez en tout cas qu'aujourd'hui sur ce salon, il y a beaucoup d'intérêt autour de cette application Helplease.
Alors c'est incroyable, depuis ce matin, je n'arrête pas d'être sollicité. Et d'ailleurs, quand je télécharge la carte d'Helplease, j'ai plus de 15 personnes autour de moi qui ont téléchargé l'application. Alors que ce matin, j'étais absolument tout seul dans le périmètre de l'île Grand Palais. Et ce soir, je ne suis plus tout seul.
Et ça veut dire aussi qu'il y a un vrai impact à être présent sur ce salon aujourd'hui.
Alors, le salon autonomique est un salon qui nous accueille depuis quelques années sur différents lieux de la France entière. Et c'est vraiment un vecteur extraordinaire pour permettre aux innovations émergentes d'être reconnues par le public et utilisées.
Alors, très rapidement, sur quel support on peut télécharger cette application ? Les smartphones, les tablettes peut-être également, iOS, Android ?
Alors, les smartphones, c'est plus performant sur les smartphones. Alors, iOS et Android, les deux systèmes d'exploitation fonctionnent maintenant. Les tablettes, c'est pas encore totalement paramétré pour, mais certaines tablettes arrivent à fonctionner sous Android. Ça arrive à fonctionner, mais c'est vraiment... penser dans un premier temps pour les smartphones. Plus on aura de moyens, je dirais, plus on pourra affiner une demande particulière. Mais pour le moment, nos moyens sont encore malheureusement limités et on a plein d'idées. Si des institutionnels ou des grandes entreprises veulent venir nous aider, on a vraiment beaucoup d'idées et beaucoup de demandes en fait de nos utilisateurs.
Voilà, effectivement, des utilisateurs en demande, une structure qui ne demande qu'à grandir et qui justement a encore déjà beaucoup de monde qui vient s'intéresser à Helplease. Alors, eh bien, je vais vous libérer, Patrick Fernandez. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes le cofondateur de l'application Helplease qui met en relation les aidants et les aidés. Merci à vous.
Merci, bon salon à tous.
Merci.
Merci Julien, on retrouve d'ailleurs Julien ou Lucie d'ici quelques instants sur Radio Plus. Tout de suite, c'est Killing Joke avec Love Like Blood. We'll be right back. Killing Joke avec Love Like Blood sur Radio Plus. Et on va à présent en parler des termes de Lamalou-les-Bains en compagnie de Lucie et de son invitée Delphine Cavaillé qui est assistante de direction au sein de cet établissement.
Bonjour Delphine.
Bonjour.
Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez un peu nous parler de ces termes? Qu'est-ce qu'on y fait là-bas?
Alors, les thermes de Lamalou-les-Bains sont situés dans l'Hérault. Nous sommes un établissement où nous recevons du public qui ont besoin de cures en rhumatologie et en neurologie. Et nous sommes présents sur ce salon parce que nous sommes le seul établissement français à être adapté aux personnes à mobilité réduite au niveau de l'accessibilité des soins.
Alors, justement, les thermes, c'est connu pour prodiguer des soins au niveau de la peau. C'est un peu moins connu pour tout ce qui est rhumatologie et neurologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, ça?
Oui, alors en fait, c'est tout simplement de par la composition de l'eau. L'eau thermale est un médicament. Et l'eau thermale va pénétrer par les pores de la peau et a une action effectivement sur la peau, mais aussi sur tout un tas de problèmes, notamment pour les personnes asthmatiques, les personnes qui ont des problèmes de peau, les rhumatismes, les troubles neurologiques. Et c'est le cas sur la station de Lamalou, en fait, vraiment la spécialité de la neurologie, où nous recevons des patients atteints de maladie de Parkinson, sclérose en plaques, des personnes qui ont la maladie de Charcot-Marie-Tooth, des personnes qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, séquelles post-polio, syndrome des jambes sans repos, donc toutes les pathologies neurologiques.
Donc si je comprends bien, la composition de l'eau à Lamalou-les-Bains est particulière et différente de ce qu'on peut trouver par exemple à La Roche-Posay.
Exactement, c'est tout à fait la différence entre les différentes stations thermales, c'est la composition de l'eau. Celle de Lamalou est très particulière puisqu'elle est très riche notamment en fer. Et c'est aussi cette action qui est très importante pour un point de vue médical. Donc on n'a pas, bien sûr, on ne va pas guérir ces pathologies, on va travailler sur les symptômes qui sont liés aux pathologies neurologiques et diminuer les douleurs, les troubles de l'anxiété, réduire la consommation de médicaments, favoriser le sommeil notamment.
Comment ça se passe concrètement un séjour à Lamalou-les-Bains?
Alors, les personnes viennent sur un séjour de 3 semaines. C'est le médecin prescripteur qui prescrit la cure thermale.
Donc, obligatoirement sur ordonnance?
Tout à fait, tout à fait, sur ordonnance. Donc, les soins sont pris en charge à 100% pour les personnes qui sont en affection de longue durée, du moment qu'il y a une prise en charge. Pour les autres, ce sera 65%. Donc, des séjours de 3 semaines, la personne vient à Lamalou-les-Bains, consulte un médecin en ville qui va prescrire les soins de balnéothérapie par rapport à la pathologie, puisqu'on a un panel de soins de 18 soins.
Donc il y a un suivi pendant ces 3 semaines par un médecin traitant.
Exactement. Le premier jour, en milieu de cure et en fin de cure. Voilà, donc un suivi très médicalisé. Les soins pour une personne qui vient pour une simple orientation, donc que neurologie, aura 4 soins par jour. Pour une personne qui a une double orientation, où on va affiler neurologie plus rhumatologie, va pouvoir avoir jusqu'à 6 soins par jour. Et au niveau de la durée, il faut compter à peu près 2 heures à 2h30.
Les soins, c'est des bains, c'est des jets, c'est...
Exactement. Des bains, des jets, des massages, de la gymnastique dans l'eau, des soins de balnéothérapie. La particularité aussi de Lamalou, c'est que nous avons une piscine de boue. Alors c'est du kaolin que l'on mélange à de l'eau thermale à 36 degrés et la particularité de ce soin c'est que les patients sont en pesanteur réduite. En fait ils ont le corps qui bascule en arrière, donc les pieds et les fesses en fait qui remontent à la surface. Les personnes sont allongées, font un petit peu la planche au niveau du bain de boue et ça permet au niveau des sensations de se détendre énormément puisque la personne flotte naturellement dans ce bain de boue.
Après un séjour à Lamalou-les-Bains, donc un séjour de 3 semaines, on l'a dit, est-ce qu'on peut, jusqu'à combien de temps peut-on espérer voir des effets de ce séjour?
Avec des personnes qui ressentent les effets de suite, dès 2-3 jours de soins, d'autres un petit peu plus tard, mais c'est vrai que les effets sont quand même très, très rapides, puisqu'il y a une prise en charge quand même qui est importante et les gens sont là et se détendent très rapidement, donc il y a des effets qui sont attendus vraiment très rapidement.
Et ça dure ensuite dans le temps, est-ce qu'on peut espérer n'avoir pas ou moins mal pendant un an après le séjour,
bien
par
sûr,
exemple?
Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, la cure thermale, enfin, quand la sécurité sociale accorde la cure thermale à un patient, elle accorde automatiquement pour 3 ans.
Donc, voilà. 3 années consécutives oui, de cure thermale à la Malou.
Après, ça ne veut pas dire que la 4e année, la cure ne sera pas accordée. Bien au contraire, souvent, elle est accordée pendant des années. Notre patient, cette année, qui vient depuis le plus longtemps, vient depuis 49 ans en cure thermale à la Malou.
49 ans à la suite.
Ah, oui, tout à fait. Donc, la preuve que ça conserve.
Et pour espérer avoir cet effet-là, du coup, est-ce que l'accumulation des cures année après année, ça augmente ces effets ou au contraire, ça les réduit?
Alors, ça, c'est très difficile à voir avec l'expérience, puisque moi ça fait 19 ans que je travaille sur le site de la Malou. On a des patients qui une année ne sont pas venus, qui nous ont dit on a l'impression que la cure ne nous fait plus rien, donc j'ai fait une année de pause et s'empresse de revenir puisque le fait de ne pas avoir fait une année, ils ont eu beaucoup de réveils de douleur et ils languissaient vraiment de revenir nous voir.
Donc ils ne voient pas d'amélioration, il y a juste une constance en fait au final.
Tout à fait, en tout cas la pathologie ne progresse pas. Et c'est surtout là l'effet escompté.
Si jamais on souhaite devenir un patient de la Malou-les-Bains, si jamais on souhaite faire une cure thermale là-bas, comment fait-on ?
Alors, il faut aller voir son médecin généraliste. C'est lui qui va vous remplir le document CERFA, la prise en charge de cure thermale. Vous finissez de le compléter puisqu'on va vous demander le plafond des ressources. Et ce document, vous l'envoyez à la caisse primaire qui vous donne un accord sous un mois à un mois et demi. Et ensuite, hein, bien sûr, il faut prendre contact auprès de l'établissement thermal pour réserver ces périodes de cure. En sachant qu'à la Malou, nous sommes ouverts du 8 février pour l'année prochaine. Et nous fermerons aux alentours du 10 décembre, donc 10 mois d'activité consécutive.
Et il y a 2 mois de fermeture complète.
Exactement, oui, 2 mois de fermeture complète qui nous permettent de faire des travaux puisque nous recevons jusqu'à 13 000 patients par an. Donc on a vraiment besoin de 2 mois de travaux pour...
Donc des projets d'extension, de rénovation.
Tout à fait.
Destinés à agrandir les thermes de la Malou-les-Bains.
C'est ça.
Vous avez un site internet ou des réseaux sociaux sur lesquels on peut retrouver vos coordonnées?
Bien sûr. Donc déjà ici, nous sommes sur le stand C50. La station thermale de la Malou-les-Bains dépend de la société Chaîne Thermale du Soleil. Donc vous avez sur internet www.chainethermale.fr et là, vous tapez la station de la Malou-les-Bains. Nous sommes également sur Facebook et Instagram, au terme de la Malou-les-Bains.
Merci pour votre temps, Delphine Cavaillé. C'était donc l'assistante de direction des thermes de la Malou-les-Bains, des thermes qui sont destinés à apaiser les douleurs pour les personnes atteintes de rhumatisme, notamment. On a compris que c'était une action très importante pour ces personnes-là. Merci.
Merci.
Vous êtes toujours sur Radio Plus. Alors, je ne sais pas si on retrouve Julien tout de suite en direct. Je pose la question à Wifa qui est avec nous. Oui, on y va. C'est parti.
Oui, est-ce que je suis à l'antenne, Jean-Philippe ?
Tu es à l'antenne, oui.
Alors, je suis à l'antenne. Je suis avec les équipes de Benoît Système qui proposent de l'adaptation et de la motorisation de fauteuils roulants manuels. Alors, pour répondre à mes questions, il y a Guillaume qui est présent. Alors, Guillaume, quelques mots pour présenter justement votre fonction au sein de Benoît Système ?
Bonjour, oui, donc on est fabricant de motorisation pour fauteuils roulants manuels depuis 25 ans et donc on s'installe sur quasiment tous les fauteuils roulants manuels existants.
Alors l'adaptation, ça fonctionne en fait un peu comme le stand que l'on a été voir tout à l'heure, la société Sojadis qui elle adapte des véhicules, ça part de quelque chose existant que vous venez transformer.
Exactement, oui, la personne a déjà son fauteuil roulant manuel. Et grâce à nos motorisations, elle va retrouver de l'autonomie toute seule pour justement se balader et avoir quelque chose de démontable aussi facilement.
Alors vous proposez aussi de l'assistance pour les aidants, puisque sur l'un de vos modèles, vous proposez une aide à la poussée.
Oui, exactement. On a 2 types de motorisation, donc le Minotaur pour l'utilisateur. Et le pousseur là qui cible la tierce personne pour aider les dents justement à propulser la personne dans le fauteuil. Souvent c'est des cas compliqués, des cas lourds, des fauteuils lourds et du coup on vient redonner de l'autonomie à la tierce personne.
Alors vous m'avez parlé aussi d'une innovation tout à l'heure. Là j'ai été très surpris parce qu'en plus je l'ai sous les yeux donc je peux me rendre compte de ce à quoi ça correspond. Il s'agit en fait d'une embase qui s'adapte sur tous les types de chaises, y compris des chaises qui ne sont pas médicalisées, des chaises du quotidien en réalité.
Oui, c'est ça. Le but du MobiLiquid, c'est de venir motoriser n'importe quelle chaise que l'on va retrouver à son domicile, donc une chaise de salle à manger, une chaise de bureau. À partir du moment où nous avons 4 pieds, on va pouvoir venir s'installer, régler l'empattement en largeur, en profondeur pour que n'importe quelle chaise vienne s'adapter dessus.
Et ça fonctionne ça sur la plupart des chaises à quatre pieds? Parce que je vois pas très bien, mais a priori c'est une chaise en plastique très basique là, sur laquelle monsieur est assis.
Oui, c'est ça, une chaise de jardin, une chaise en plastique toute simple, une chaise de salle à manger métallique, une chaise de bureau.
Dès l'instant où il n'y a pas de roulette, en fait, dès l'instant où on n'est pas dans une configuration avec une assise très haute, a priori ça s'adapte.
Voilà, il nous faut juste une chaise à quatre pieds.
Alors, l'intérêt pour vous d'être sur ce salon autonomique, proposer vos services, toucher de nouveaux clients, je suppose?
Bah, c'est oui, toucher de nouveaux clients, ça fait quand même 25 ans qu'on existe, donc du coup on est quand même assez connu sur toute la France. C'est surtout fidéliser notre réseau de revendeurs, de particuliers. Les gens aiment bien repasser sur notre stand pour nous dire les remontées positives et négatives du Minotaur, ce qui nous aide aussi à perfectionner nos produits en faisant des modifications. Et puis continuer notre partenariat avec les fabricants de fauteuils, parce que nous on est juste fabricants de motorisation, et du coup de voir aussi ce qu'eux proposent maintenant pour que du coup on les intègre dans notre parc de démonstration et que du coup ça nous agrandisse notre parc de démo. Oui.
Alors d'un point de vue purement pratique, comment est-ce que ça fonctionne la motorisation? Quelle pièce on va retrouver sur une adaptation? Moteur, batterie?
Ah oui, pardon, moteur, batterie, joystick, roulette anti-bascule et voilà principalement les quatre pièces qui composent la motorisation, oui.
L'installation, c'est quelque chose qui prend du temps ou c'est au contraire très facile d'installer une adaptation sur un fauteuil manuel?
Alors sur l'installation, sur le fauteuil, tout se fait dans nos locaux. Donc le fauteuil est envoyé chez nous, on fait l'installation... de la motorisation sur le fauteuil, donc on fabrique la motorisation en fonction du fauteuil existant et une fois que le fauteuil est fait, on le renvoie. Donc ça nous prend grossièrement 48 heures, on va dire, le temps de faire l'installation, les essais, voir si les re-réglages, et après on renvoie tout au revendeur et c'est lui qui fait la livraison. Mais sinon, une fois que la motorisation est installée, la mise en place du montage et démontage, quand les gens sont habitués, ça prend 15 secondes.
Ah oui, quand même, donc dans tous les cas, que ce soit l'installation ou la mise en place, quelque chose de très très rapide finalement.
On essaye, ouais. C'est un peu notre but d'avoir quelque chose de fiable et qui ne soit pas trop contraignant pour la personne concernée ou les tierces personnes au niveau de la mise en place, du montage et du démontage.
Alors, juste pour qu'on ait un ordre d'idée, l'entrée de gamme pour mettre en place une motorisation, ça chiffre aux alentours de combien ?
Alors, le Minotaur, qui est un peu notre produit phare depuis 25 ans, on est à 5280. On peut avoir une base de remboursement à hauteur de 2187 € pris en charge par la Sécurité sociale.
50% à peu près, du coup, hein, si je calcule bien.
Un petit peu moins, oui.
Alors, si l'on souhaite justement plus de renseignements sur vos produits, comment fait-on ?
Alors, sur notre site internet, benoistsystem.com, vous allez retrouver le contact par mail, le numéro de téléphone, vous allez tomber sur nos assistantes et qui derrière, tous les contacts seront dispersés sur les commerciaux de la France. Et après, c'est les commerciaux qui recontactent les personnes et qui font la démonstration des produits et qui les redirigent après et les conseillent sur les revendeurs et quel type de fauteuil adapté ou pas.
Merci beaucoup Guillaume d'avoir répondu à nos questions. Alors Jean-Philippe, je vais reprendre l'antenne très très rapidement parce qu'en fait on nous propose sur le stand de Benoist System de tester en fait sous le régime de la réalité virtuelle les avancées qui sont proposées. Alors le temps pour moi de m'installer, le temps de discuter aussi un petit peu avec Léandre qui pilote ça, et puis si on peut m'envoyer Lucie pour qu'elle puisse me tenir le micro et que je puisse commenter ce qui se passe. Alors, eh bien, je reviens dans 30 secondes. Alors Benoist Lucie... System, c'est au niveau du stand B32-B37 si jamais Lucie nous cherche, et puis si vous voulez vous repérer aussi dans le salon, et puis je te laisse un petit peu prendre l'antenne et je reviens juste après.
Oui, alors concernant Lucie, elle vient de quitter le stand de Radio Plus.
Bon,
donc bah,
voilà,
de la
c'est contacter. Pas grave, j'ai pas de... ça va arriver.
Voilà, et sinon...
Sinon, on revient dans quelques instants, il n'y a pas de souci.
Voilà, et puis on va peut-être, à la limite, donc tu es, rappelle-nous, au stand...
Au stand de Benoist System, qui se situe au niveau B32, B37.
niveau B32, B37. Donc peut-être que UEFA pourra venir justement t'accompagner stand.
Le temps que UEFA arrive et puis moi je m'installe et on se reprend dans quelques instants.
Voilà, et puis on va tout simplement écouter François Hardy avec VIP sur Radio Plus. À l'instant, c'était François Hardy avec VIP sur Radio Plus. On est toujours en direct du salon autonomique à Lille Grand Palais. Alors, je vais essayer d'avoir Julien tout d'abord. Je ne sais pas s'il est
une belle amplitude et pouvoir bien avancer.
Oui. Alors, est-ce qu'on est en direct?
Oui, on peut y aller. Oui, ça ramène le micro, s'il te plaît, près de moi.
Le micro est juste près de toi.
D'accord. En fait, je suis Jean-Philippe. Genre, je ne sais pas si tu m'entends. Moi, je t'entends en tout cas. Donc, tu peux.
On t'entend. C'est bon. C'est bon.
Tu peux y aller. En fait, je suis dans un fauteuil roulant donc de Benoît Système qui propose de tester en réalité virtuelle. Alors, du coup, je suis complètement isolé. J'ai le masque de réalité virtuelle sur le nez et sur les yeux. Et en fait, alors, il faut se rendre compte que je suis sur un trottoir là, en fait. Dans ce fauteuil et j'ai la possibilité avec les gâchettes qui me sont fournies par le système de sélectionner mes roues et de simuler en fait une motorisation. Donc là, je vais essayer d'avancer. Et effectivement, on sent que j'avance. Alors, j'avance pas très très vite. Hein, pour...
Alors,
d'accord. Ok, voilà. Alors, il faut vraiment sélectionner. Alors là, en plus, je pense que je roule pas droit pour rien
déjà,
cacher.
Déjà, c'est virtuel, donc ça
oui,
va.
Oui, alors c'est virtuel. Alors en fait, l'idée, les sensations en tout cas sont là, j'ai vraiment l'impression d'avancer. Mais j'ai ce mauvais réflexe de regarder tout le temps si j'ai bien les mains sur les roues. Et j'imagine que je n'aurais pas ce réflexe si j'étais en pleine possession de ma vue. Alors là, du coup.
Il y a encore quelques correctifs à faire. Mais du coup, voilà, avec les personnes qui viennent, on a pas mal de retours. Donc, ça peut nous aider à améliorer le produit, en tout cas.
Alors, voilà, je continue d'avancer. Je ne sais pas qui je suis en train d'éborgner, mais là, je pense que je vais tomber dans peu de temps. Alors, comment est-ce qu'on serait... Oui, alors ça c'est ce bouton qui est là.
Donc on rappelle le véhicule que tu es en train de, de manipuler,
celui-là,
de conduire.
Celui-là.
En tous les cas.
Ok. Ok.
Voilà, et là maintenant vous n'avez plus besoin de vos mains pour bouger, enfin de plus besoin de faire de mouvement. Vous avez juste besoin d'utiliser le joystick qui est à votre droite. Et là vous avez juste à avancer avec le joystick et ce sera bon.
D'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, effectivement, ça simule la motorisation. Mais alors, c'est très rigolo parce que j'ai plus cette sensation que j'avais en poussant les roues. Ah si, bah là, je la ressens, là, du coup. Ah, ça va. Il y a une sensation de vitesse quand même hein, qui est présente. Ouais, ça fait tout drôle. Et puis, alors, je pense que je suis un vrai danger public en fauteuil roulant puisque je ne roule absolument pas droit. Alors, et c'est très difficile, en fait, de se caler. Alors, petite question, Léandre. Là, du coup, ce système de réalité virtuelle, il est présent, mais est-ce qu'on retrouve dans les fauteuils roulants, de manière générale, ce système de télécommande pour piloter un fauteuil, ça existe aujourd'hui ?
Oui, bah, sur nos fauteuils, là, vous avez un joystick qui est présent avec toutes les motorisations, où vous pouvez l'utiliser bah, comme vous le faites là avec le joystick, avancer à gauche, à droite pour vous diriger, c'est exactement le même principe.
Je viens de tourner à droite et comme j'aime la difficulté, j'ai pris une pente pas possible pour pouvoir accéder et heureusement que je ne la fais pas manuellement et heureusement du coup que la motorisation, oui parce qu'en fait là la motorisation je sens qu'elle rame en fait, c'est à dire que ce qui est censé être une aide à la conduite me permet effectivement beaucoup plus facilement de traverser la difficulté que je rencontre. J'ose pas imaginer si la motorisation n'avait pas été présente en réalité. Alors oui, on se rend compte aussi des difficultés hein, qu'on peut avoir en étant en fauteuil roulant. Là, je suis en train de traverser une ruelle assez étroite. Alors pour les voitures, c'est un vrai boulevard, mais en fauteuil roulant, le trottoir n'est pas très large. Il y a beaucoup de portes, de maisons à mes côtés qui m'obligent en fait à légèrement détourner, mais j'ai pas beaucoup d'espace sur ma gauche, sans quoi je risque de déborder sur la chaussée en fait. Et là, j'arrive sur une nouvelle montée. C'est possible de couper la motorisation pour que je me rende compte de la montée, Léandre ? Alors, la motorisation, hop, et là je me retrouve dans cette situation de nouveau.
Là, alors. Vous êtes en train de tomber à cause de la gravité.
D'accord, alors.
Alors,
faut vraiment que je. Alors, effectivement, je n'avance plus là, je suis totalement. Ah oui, je recule carrément. D'accord, alors. Et. Alors là, je suis totalement à l'arrêt et on se rend compte des difficultés. Alors moi, je trépigne dans mon fauteuil qui ne sert absolument à rien, puisqu'en réalité, je ne suis pas en train de saisir les roues. Eh non, là, j'avance plus.
Vous êtes bloqué dans un coin, donc je pense que ça doit être ça. Ouais.
Et où je devrais pouvoir repartir. Ah voilà, effectivement, c'est un peu mieux. Et comme je n'étais pas sur le trottoir, Jean-Philippe, ça devenait évidemment extrêmement compliqué. Alors là, j'arrive face à une difficulté que je vais devoir contourner. Il n'y a personne qui arrive là, donc c'est très bien, ce qui m'évitera de me faire tamponner par une voiture, parce que c'est une difficulté qu'on peut rencontrer aussi, hein, le fait de changer de chaussée. Et là, je suis à l'arrêt. Pourquoi ? Je ne sais pas, je suis peut-être... Ah oui, je ne peux pas aller par là, en fait. D'accord.
Alors Julien, on va peut-être rappeler, je ne sais pas si tu nous entends Julien.
Oui, j'entends, oui.
On va peut-être rappeler le stand où tu te trouves.
Alors c'est le stand de Benoît Système, qui est un stand qui permet en fait de travailler la motorisation, enfin qui permet d'adapter des fauteuils roulants manuels de base et qui en fait va permettre aussi de tester en réalité virtuelle certaines de ces innovations.
Alors ce que je te propose Julien, si tu le veux bien.
Alors là je n'ai plus mon oreillette Jean-Philippe qui vient de glisser de mes doigts. Donc je vais te reprendre dans quelques instants, merci. Voilà, je t'entends de nouveau.
Alors si tu le veux bien Julien, on va te reprendre juste après une autre société qui est sur notre stand. Et comme ça on aura un petit peu le bilan de ton expérience avec
ouais.
Justement
je vais terminer ça, système. Je pense que je vais bientôt terminer, je vais repasser.
Et on te retrouve juste après. Et à présent, on va retrouver avec Lucie la société Hollister et son invité, donc Bertrand Vignel, qui est directeur régional d'Hollister.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Donc, il ne s'agit pas de Hollister, la marque de vêtements, comme je l'ai tout d'abord cru en passant devant votre stand, mais d'un autre Hollister dont vous allez nous expliquer le concept.
Exactement. On n'est pas du tout la société de vêtements, puisqu'en fait, on était là bien avant. Puisque on va bientôt fêter nos 100 ans. Donc Hollister, en fait, c'est une société américaine qui est spécialisée dans le dispositif médical, plus particulièrement sur les produits de stomathérapie et les produits liés aux troubles de la continence. Donc tout ce qui va être sondage urinaire, Poche de Recueil et Tupénien.
C'est peut-être un préjugé que je vais avoir là, mais du coup, ça s'adresse peut-être plutôt à un public plus âgé ?
Alors, ça s'adresse à un public âgé d'un côté pour les patients stomisés. Et par contre, sur les troubles de la continence, on va être également sur un public jeune, puisqu'on va avoir des utilisateurs qui sont des blessés médulaires, donc suite à des accidents de la route, par exemple. Donc non, ça, on va toucher toutes les tranches d'âge.
Alors, vous me disiez tout à l'heure que votre société est née en Amérique. Vous me parliez aussi également du fait que vous aviez des boutiques un peu partout en France. Et vous me disiez du coup que la société est internationale et a une histoire un peu particulière.
Exactement. Alors, on n'a pas de boutique.
D'agence.
On n'a pas d'agence en propre. Donc, on a un réseau commercial. Donc, bien évidemment, on est présent partout en France. On est présent dans 93 pays aujourd'hui. Et la petite particularité, c'est qu'on a une histoire un peu particulière, puisque notre fondateur, à la base, était imprimeur. Donc, de l'imprimerie au dispositif médical, il y a un grand pas. En fait, on est arrivé un peu par accident dans l'industrie du dispositif médical, puisque un des employés de notre fondateur avait un des membres de sa famille qui était malade et qui venait d'avoir une stomie. Et a demandé s'il pouvait utiliser les ressources de la société pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait permettre à cette personne de vivre un peu plus dignement sa maladie. Et c'est comme ça que l'histoire a créé le premier protecteur cutané. Et parti de là, en fait, notre fondateur s'est dit que finalement, ça faisait beaucoup plus de sens d'essayer d'améliorer la qualité de vie des personnes à qui on vient d'apprendre que l'avenir serait un peu moins rose. Et du coup, il a décidé d'arrêter complètement son métier d'imprimeur pour se consacrer complètement au dispositif médical.
Du coup, c'est quoi ces dispositifs médicaux? Quels outils propose Hollister exactement et concrètement, à quoi servent-ils?
Donc concrètement, Hollister aujourd'hui donc, fabrique des poches de stomathérapie. Donc les poches de stomathérapie servent quand on est sur des pathologies, cancer colorectal par exemple, où on doit du coup aboucher une partie de l'intestin à l'abdomen pour pouvoir vider les selles.
C'est une poche en fait.
C'est une poche, exactement. Et la deuxième grande famille de produits que fabrique Hollister, ce sont des sondes urinaires. Lorsque le patient est en rétention et que, bien évidemment, il faut vider la vessie pour préserver les reins. Et donc là, il faut un produit adapté pour vider efficacement la vessie et faire en sorte que le patient n'abîme pas ses reins.
Pour acquérir ce genre de dispositif, ce genre de matériel, est-ce qu'il y a des aides accordées par la mutuelle, la sécurité sociale, l'État?
Alors, on a la chance d'être en France et on a la chance d'être sur des produits qui sont remboursés à 100% par la sécurité sociale.
Sur ordonnance d'un spécialiste de la santé.
D'un spécialiste, exactement.
D'un spécialiste et d'un médecin généraliste?
Médecin généraliste aussi, les médecins généralistes peuvent bien évidemment prescrire ce type de produit.
Alors, vous me disiez que vous n'aviez pas de boutique à proprement parler,
non,
mais un réseau commercial.
Exactement. Donc, en fait, nous, nos produits sont disponibles en fait chez tous les distributeurs, que ce soit des prestataires de santé à domicile ou que ce soit des pharmaciens de ville. Et donc, on a tout un réseau commercial, donc une équipe de commerciaux qui, justement, vont aller rencontrer dans les hôpitaux, dans les centres de rééducation, les médecins, les infirmières, pour justement présenter les produits et la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter aux patients.
Et donc, pour se procurer les produits, il faut prendre contact avec ces spécialistes de la santé ou...
À partir du moment où on rencontre un médecin ou une infirmière spécialisée qui estime que vous nécessitez d'avoir ce type de dispositif médical, on va vous prescrire une ordonnance.
À titre indicatif, s'il n'y avait pas de remboursement par la sécurité sociale ou la mutuelle, de combien varie le prix? Quelle est la fourchette de prix de ce genre de dispositif?
On va dire qu'aujourd'hui, le prix de remboursement d'une boîte de sondes, empiriquement, sur une moyenne, on est à peu près autour de 100 euros.
100 euros une sonde
pour une boîte de 30 sondes, donc c'est un peu plus de 3 euros.
Et une boîte de 30 sondes, ça dure combien de temps à titre indicatif?
Alors, si on suit les recommandations des sociétés savantes, on est entre 5 à 6 sondages par jour, donc une boîte, ça fait un peu moins d'une semaine.
Si on voulait avoir des renseignements sur vos dispositifs, est-ce que c'est accessible sur Internet, par exemple?
C'est accessible sur Internet. On a un site Internet, donc www.hollister.com, donc qui est accessible à tous, où il y a donc un accès pour les professionnels de santé et un accès pour les utilisateurs. Et on a également toute une palette de services qui servent aussi à améliorer l'observance et faciliter aussi le quotidien des patients. Donc on a une communauté qui s'appelle Vivre Plus, qui est une communauté qui est réservée à tous les utilisateurs de sondes et également les porteurs d'une stomie. Peu importe la marque qu'ils utilisent, ça c'est un peu notre particularité. Donc on va mettre à disposition de ces patients toute une somme de services gratuits, sans engagement.
Des conseils, de l'accompagnement.
Il y aura des conseils, il y aura des accessoires pour faciliter le quotidien. Il y a aussi des forums, des vidéoconférences. L'idée, c'est de pouvoir, c'est d'avoir une vraie communauté, de pouvoir sortir déjà d'une forme d'isolement, de pouvoir échanger aussi sur des trucs et astuces qui facilitent le quotidien.
Donc, il y a des échanges au sein même de cette
Il y a des échanges au sein de cette communauté, bien évidemment.
Et avec les professionnels de l'ISTER également ?
Nous, on est surtout là en termes de support. L'idée, c'est de faire vivre cette communauté. Mais la communauté, elle a été pensée par des patients à destination de patients.
C'est né d'une initiative ?
C'est vraiment né d'une initiative de patients. Et nous, on apporte, entre guillemets, notre soutien financier. Et pourquoi c'est destiné à tous les patients qui utilisent donc des produits soit de sondage, soit de stomathérapie, peu importe la marque ? C'est parce qu'on a la chance d'être une société indépendante. On n'a pas d'actionnariat. Donc en fait, on est propriétaire de l'entreprise.
De la marque.
Et ce qui fait que on n'a pas d'actionnaires qui, en fin d'année, veulent des dividendes à tout prix. Donc on a la chance de finalement, nous, pouvoir voir l'argent comme le moyen de réussir une mission. Et notre mission première que nous a transmis notre fondateur, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes qui utilisent nos produits. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est que de voir l'argent comme un moyen et non pas comme un objectif.
Vous êtes totalement libre.
On est complètement libre.
De vos objectifs, de vos quotas.
Exactement. Et la liberté, on l'a poussée à son paroxysme puisque on n'a pas un centime emprunté dans une banque. On vit sur nos fonds propres. Donc en fait, on a besoin d'argent, mais pour continuer finalement d'exister, à être autonome et à pouvoir développer des produits, développer des services. Même si sur certains aspects, on pourrait se dire, mais quel est l'intérêt ? L'intérêt, il est d'abord beaucoup plus humain et philosophique, qui est de poursuivre la mission de notre fondateur.
Donc vous êtes presque une société en autarcie au final.
Complètement.
Merci beaucoup pour votre intervention. Donc un service de matériel pour les personnes qui en ont besoin, et également une communauté d'échange. Donc c'était Bertrand Vignal, directeur régional de l'ISTER. Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup Lucie. Alors on va essayer de retrouver Julien. Il est peut-être dans les parages, notre ami Julien.
Je suis là. Est-ce que tu m'entends ?
Oui, je t'entends parfaitement.
Oui, alors voilà. Alors j'étais en train un petit peu de me balader justement dans les stands pour essayer de repérer d'autres intervenants à retrouver. Et je pense que tu veux savoir comment ça s'est passé sur ma réalité virtuelle. Alors pour rappel à ceux qui viennent de nous rejoindre, j'étais il y a quelques minutes à peine sur le stand de Benoît Système, qui est une société qui adapte et motorise des fauteuils roulants manuels. Et donc parmi leurs innovations, ils proposaient d'en tester certaines en réalité virtuelle pour se rendre compte justement des bienfaits de l'apport d'une motorisation. Alors, pour résumer un petit peu ce que j'ai fait, en fait, j'étais équipé d'un casque de réalité virtuelle, casque qui me permettait en fait de m'imaginer dans une rue où il aurait pu y avoir de la circulation. Et le but de cette initiation était en fait tout simplement de simuler la poussée d'un fauteuil roulant. Alors, première sensation. C'est pas facile la réalité virtuelle parce qu'il faut vraiment être placé d'une certaine manière pour que tout fonctionne correctement, ce qui fait que j'ai pas forcément roulé très droit en fauteuil roulant. Au-delà de l'aspect ludique, moi j'ai été frappé par ce côté justement. On était vraiment dans de la simulation, c'est-à-dire que les rues qui étaient en pente et pour lesquelles il y avait besoin de cet accompagnement de motorisation, c'est des pentes que même à pied, en étant en pleine possession de mes moyens, je n'aurais pas aimé avoir à remonter, pour que tu te rendes compte un petit peu de l'idée.
J'imagine un petit peu.
On a eu aussi des passages. Alors, je me suis orienté différemment parce que le parcours n'était pas linéaire. Hein. J'avais vraiment le choix aux intersections d'aller à gauche, à droite, en face. Et en fait, en prenant par exemple à droite, je suis passé d'un carrefour assez large à une ruelle très étroite avec des murs, avec des portes qui étaient très proches de la rue. Tout pour faire comprendre en fait que le parcours en fauteuil roulant est tout sauf un parcours simple. Et ça, c'est quelque chose, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure lorsque nous avons testé le parcours d'éveil sensoriel pour les personnes malvoyantes ou aveugles. C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Là, j'ai vraiment pu me rendre compte alors que c'était une simple simulation de la difficulté qu'on peut avoir, ne serait-ce que de pousser un fauteuil roulant manuel. Là, il y avait une assistance, mais il y avait cette sensation de retour de force en fait dans les joysticks qui étaient à ma disposition. Au-delà de l'aspect ludique, oui, alors oui, c'est rigolo, on s'imagine dans une rue, on fait des choses, on met les manettes, ça réagit, oui, mais il y a une vraie prise de conscience à avoir derrière. Et l'urbanisme que j'ai pu voir dans cette rue qui était proposée à la découverte dans la simulation, c'est de l'urbanisme que l'on retrouve dans des grandes villes. On aurait très bien pu transposer ce que j'ai vu à l'écran dans une petite ruelle pavée du Vieux-Lille, par exemple, pour qu'on se rende compte. Donc, il y a une vraie prise de conscience à avoir parce que aujourd'hui, disons-le clairement, de nombreux chemins ne sont pas adaptés à la circulation en fauteuil roulant.
Voilà, on pense notamment, hein, tu parlais du Vieux-Lille, hein, par exemple, les pavés, bon, bah, c'est compliqué. Hein,
mais là, alors, je ne suis pas concerné évidemment par le handicap. On aura peut-être l'occasion de poser la question à des visiteurs d'ici la fin de nos directs, puisqu'on sera également en direct demain. Ça me paraît impossible de traverser le Vieux-Lille en fauteuil roulant manuel tel que je l'ai vécu là sans motorisation. Alors, évidemment, hein, c'est mon point de vue de personne valide. Hein, j'ai tout à fait conscience de cette situation-là. J'imagine qu'il y a des personnes en situation de handicap en fauteuil roulant qui sont amenées à traverser à tout le moins le Vieux-Lille ou du moins des rues pavées. Mais je suis très, très interpellé en tout cas par ce que j'ai vu, oui.
Voilà, et sans parler de l'étroitesse aussi des trottoirs.
L'étroitesse des trottoirs, d'ailleurs, dans la simulation, je pense qu'on était encore à l'antenne à ce moment-là. Léandre, qui m'a mené l'initiation, me faisait remarquer qu'en fait, je n'avançais plus parce que j'étais une roue à cheval sur la chaussée. Et que du coup, c'était bloqué et qu'il fallait qu'en fait, je remette le fauteuil sur le trottoir. Ce qui n'est pas facile, d'ailleurs, là aussi.
Voilà, et on parle évidemment pas des autres obstacles, les poubelles qui sont placées un petit peu.
Il y en avait pas là, très étonnamment d'ailleurs. Après, ça reste une démonstration, donc c'est peut-être juste pour faire comprendre de manière très simple. Et là, c'est réussi les enjeux, mais
c'était le niveau 1 facile.
C'était le niveau 1 facile, oui, c'est ça, Jean-Philippe. Effectivement, mais on peut imaginer, j'imagine en tout cas que ça existe avec d'autres obstacles.
Voilà, et c'est vrai qu'on plaisante, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, effectivement, que ce soit dans n'importe quelle ville, n'importe quel trottoir. Et puis il y a des fois où on se demande vraiment, malgré les réfections de chaussées, malgré les travaux qui ont lieu, parfois mais il n'y a toujours pas d'accessibilité de fait, et ça pose question quand même.
Et non, et sans compter effectivement aussi, on le soulignait tout à l'heure avec Valérie Accard qui gère le parcours d'éveil sensoriel, l'incivilité qui peut faire que des repères pour les personnes à mobilité réduite soient aujourd'hui masqués parce que on préfère poser sa valise et plutôt que de se reculer de ces bancs de podotactiles. En tout cas, j'invite vraiment ceux qui sont à l'écoute et qui ont prévu de passer sur ce salon, puisque le salon ferme ses portes à 18h en ce mercredi, même si nous on va rendre l'antenne dans quelques minutes, ou si vous venez demain, je vous invite vraiment à tester toutes les innovations qui vous sont proposées pour vous rendre compte aussi, particulièrement si vous êtes valide ou si vous n'êtes pas concerné par de la mobilité réduite. Voilà, pour en parler autour de vous, pour être sensibilisé, pour en parler autour de vous.
Voilà, alors si vous souhaitez vous rendre au salon autonomique Lille Europe, c'est à Lille Grand Palais, c'est ouvert à partir de demain, eh bien à 9h30 et jusqu'à 17h, bien sûr ça ferme ses portes aujourd'hui à 18h, donc d'ici une petite heure, si vous êtes de passage sur Lille, vous pouvez encore venir à Lille Grand Palais pour découvrir un petit peu ce salon. Si vous souhaitez vous y rendre, eh bien c'est tout simple. Hein. En voiture, il faut prendre, en venant de l'autoroute A1, par exemple, en venant d'Hénin-Beaumont, vous prenez la sortie 2 et la voie 2A direction Lille Grand Palais. Si vous venez de Dunkerque,
la sortie 2, elle était en gros travaux ce matin. Donc, à mon avis, il y a des déviations qui seront à suivre.
Alors, moi, je n'ai pas eu de difficulté ce matin.
Ah, bah, tu es chanceux parce que moi, il y avait vraiment des travaux qui étaient
en train de la sortie de l'île Grand Palais sur la voie rapide était accessible sans problème depuis l'autoroute 1.
Alors, les travaux ont peut-être démarré après ton arrivée. C'est
possible. Une bonne question. En tous les cas, on vérifie ça, malgré ça demain. Voilà, tout simplement. En tous les cas, vous pouvez également tout simplement vous rendre ici en métro. Si vous souhaitez vous y rendre en métro, eh bien, c'est la ligne 2, hein, sortie de l'île Grand Palais. Et vous pouvez également prendre le bus, hein, pour venir à Autonomique en empruntant la ligne citadine, et en vous arrêtant à l'arrêt Lille Zénith. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et puis bien sûr également en train et puis ensuite en métro ou bus comme vous le souhaitez. Voilà, nous on est demain, donc à partir de demain, en direct avec de nombreux autres invités. Puis on fera évidemment le bilan de ce salon autonomique, la quatrième édition de ce salon autonomique demain à partir de 16h30, je pense, hein, bilan final.
Oui, oui. Demain on aura déjà, notamment puisque le rendez-vous a été calé à partir de 10h, juste après le début de notre direct, une interview de l'association Vivre avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, on en parlera demain, donc à partir de 10h. Et puis on a encore beaucoup d'exposants à vous faire découvrir à l'occasion de ce salon autonomique.
Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute des programmes de Radio Plus. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Localement Plus. Et juste après, à 18h, ce sera Microscope sur le 104.3 et en DAB+, bien évidemment. À demain.